que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Bien, nous parlons à présent des solutions pour combattre l'humidité dans une maison. C'est un problème que nous rencontrons souvent dans nos maisons qui vieillissent, l'humidité. Elle n'est pas du tout bonne pour votre maison, encore moins pour votre santé. L'humidité n'est vraiment pas à prendre à la légère. Alors, quels en sont les signes et comment la combattre, comment la prévenir? Pour en savoir plus, pour avoir des réponses à toutes ces questions, nous recevons aujourd'hui Desho Ngandou, architecte. Bonjour Desho.
Bonjour Jolie.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est quoi l'humidité, Desho?
En fait, je crois que c'est bien, commençons par le commencement.
Oui.
En termes simples, l'humidité, c'est tout simplement la présence de l'eau ou de la vapeur ou de tout autre liquide dans un corps ou dans une matière. Donc vous comprenez par là, s'il faut aller tout droit au but, parlant de la maison qui... Et en fait, le point focal de notre entretien, lorsqu'on parle de l'humidité dans une maison, cela sous-entend qu'il y a la présence de l'eau sous une autre forme, soit de vapeur ou de gouttelettes, dans la maison. Donc, en fait, c'est un peu ça en termes clairs.
Et comment, quels sont les signes, comment se manifeste cette présence de l'eau?
Les signes sont multiples. Vous pouvez peut-être voir la peinture qui se décape quand il s'agit par exemple d'une maison où on a un revêtement en peinture. On peut voir même les plaintes des carreaux qui gondolent, c'est-à-dire qui prennent du volume et qui commencent à se détacher. Vous verrez même des champignons dans les bois de charpente. Vous verrez la présence par exemple des odeurs désagréables dans la maison. Tout cela font partie des signes visibles de la présence de l'humidité dans un logement.
Voilà, ce sont là les signes. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Les signes sont multiples, mais essentiellement, ce sont les quelques signes que je venais de donner là, qui montrent que la maison est pleine d'humidité. Et il faut aussi aller plus loin, commencer par les causes. D'où vient l'humidité? Elles sont des quelle catégorie? Je crois qu'avant d'atteindre, de trouver une solution, il faut plutôt remonter à l'origine.
À l'origine, alors parlez-nous alors des causes de l'humidité.
Les causes, je voudrais les circonscrire en quatre catégories. Il y a des humidités qui proviennent de l'infiltration. L'infiltration des toits, ou plutôt les eaux des pluies ruissellent sur les façades et pénètrent dans la maison ou à travers le toit. Ça, c'est une des premières catégories. Il y a l'infiltration qui vient à la suite des fuites dans des salles d'eau, dans la tuyauterie d'adduction, dans la tuyauterie d'évacuation, et les appareils électroménagers, par exemple le chauffe-bain. Lorsqu'il y a des fuites, compte tenu de la vétusté, il y a la présence aussi d'humidité dans la maison. Il y a l'humidité qui provient aussi des remontées capillaires, c'est-à-dire que l'eau qui se trouve dans les sols, des migrations naturelles sont en train de prendre petit à petit les pas sur le mur inférieur du bâtiment, c'est-à-dire la fondation, tout ça. Ça, c'est une des causes. Il y a aussi l'humidité qui provient par la condensation, c'est-à-dire que lorsque les pièces ne sont pas suffisamment aérées, le peu d'air qui se trouve dans ces pièces-là commence par se transformer par le fait de condensation à de vapeur et qui touche le mur de ces maisons-là. Vous remarquerez par exemple des insectes qui sont visibles dans des salles d'eau qui ne sont pas suffisamment aérées, des chambres où il n'y a pas suffisamment d'air. Vous verrez ces signes-là, c'est une des raisons aussi qui montre que non, la maison est humide.
Oui. Voilà, donc ce sont là les causes de l'humidité. Et certains, donc vous avez parlé également d'une maison qui est construite dans un terrain marécageux, il y a des remontées capillaires, on l'a dit. Et ça, c'est souvent, c'est fréquent à Kinshasa.
Oui, c'est ce qui est très fréquent, non seulement à Kinshasa, mais à travers toute la République. Et cela est très visible dans des vieilles constructions, parce qu'autrefois, en fait, la technique étant en train d'évoluer. Autrefois, on construisait sans prendre précaution pour mettre des membranes d'étanchéité avant de commencer l'élévation des murs, c'est-à-dire au niveau où on a fini la fondation, prévoir d'enveloppes d'étanchéité pour empêcher en permanence la remontée capillaire. Cela est visible dans des vieilles maisons. Mais actuellement, si vous avez une maison neuve qui a des signes d'humidité dus à la remontée capillaire, donc il faut dire que vous avez fait recours à un professionnel qui n'a pas mis en ligne des comptes, en fait, toutes les composantes pour réussir une construction. Parce qu'il est vraiment inadmissible qu'on construise aujourd'hui, quel que soit l'environnement, sans tenir compte des membranes d'étanchéité qu'il faudra mettre pour empêcher à long terme ou à court ou à moyen terme la remontée capillaire.
Mais c'est quoi cette membrane-là? C'est une couche de ciment quoi exactement?
Pas forcément une couche de ciment, c'est de la matière hydrophige. Il y en a beaucoup, mais à terme simple, c'est tout simplement des sachets. Des sachets bleus qui se vendent sur des marchés locaux ici, Gambela, marché central,
oui,
tout ça.
Oui.
Lorsque vous faites, vous terminez votre fondation avant même d'écouler la chape d'égalisation ou la dalle de sous-pavement, vous prenez précaution de mettre ces sachets-là pour que ça puisse constituer des barrières entre les remontées capillaires et les murs qui vont commencer à être élevés.
Oui.
Mais lorsqu'on ne prend pas précaution, ou plutôt on est désillusionné par un environnement qui semble vous donner des signes d'un sol non marécagé, vous le faites, mais à long terme, vous courez les risques parce que, avec le phénomène des sachets que nous sommes en train de vivre.
Et les matières plastiques ont l'avantage de durer très longtemps.
Oui, c'est ça.
Pendant de très très longues années.
C'est ça.
Oui.
Oui. Donc c'est pour cela que ça constitue une bonne membrane d'étanchéité pour pouvoir lutter contre l'humidité due aux remontées capillaires dans la maison, c'est-à-dire l'eau des sols qui est en train de prendre des surfaces jusqu'à atteindre la fondation de la maison.
Quelles sont les solutions pour combattre l'humidité dans une maison? Okapi Service reçoit aujourd'hui Desho Ngandou, architecte. Nous avons déjà un auditeur en ligne, Christian Gabou, depuis Kpandroma, dans la province orientale. Vous voulez également participer à cette émission? Composez le 081-890-63-94.
Okapi danse, du rythme et de la chaleur. Des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, d'Afrique ou d'ailleurs. Tous les tempos mixés par DJ Daddy. Okapi danse, les mercredis jeudi de 21h à minuit. Le samedi, Megamix de 19h à minuit.
Quelles sont les solutions pour combattre l'humidité dans votre maison? Christian Gabou, vous êtes à Kpandroma, bonjour.
Bonjour, j'ai dit.
On vous écoute.
Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des dangers qui peuvent soit attaquer la personne qui habite la maison humide?
Merci. Les dangers de l'humidité pour la personne qui ou les personnes qui habitent dans la maison. Justin Pandy, vous êtes à Ouvira, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Justin.
Vraiment, l'arbre nous donne une grande importance. Chez nous, qui habitons le milieu presque rural, l'arbre nous aide à construire la maison, l'arbre nous donne le poids de feu, l'arbre a beaucoup facilité l'ombre. Et vraiment, l'arbre, c'est...
Oui, Justin, vous parlez de l'arbre, le sujet sera abordé dans la deuxième partie de l'émission. À présent, nous parlons de l'humidité à la maison. Est-ce que vous avez une question en rapport avec l'humidité?
Oui, l'humidité, merci. L'humidité, c'est une chose qui permet que la maison puisse se maintenir et donner...
Ben, je comprends que Justin n'a pas.
Il est en dehors.
Oui, vous êtes vraiment en dehors. On va peut-être vous retrouver dans la deuxième partie de l'émission. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à Christian Deschaux?
Oui, à Christian, je répondrai tout de suite que oui, l'humidité constitue beaucoup de dangers dans un logement. Le premier danger, c'est que ça porte des odeurs désagréables dans la maison. Ça ne fera pas beau vivre lorsque vous vivez avec des odeurs désagréables. Une des raisons aussi, plutôt un autre danger, c'est que l'humidité, ou plutôt les humidités sont à la base de quelques problèmes de santé comme les allergies ou des maladies à ORL ou des maladies liées aux voies respiratoires comme le bronchite, les asthmes, tout ça. Donc, c'est-à-dire que combattre l'humidité, c'est prévenir aussi sa bonne santé. Lorsque l'humidité n'est pas combattue dans la maison, vous voyez les dangers auxquels vous faites face. Ça, ça écourte aussi la durée de vie de quelqu'un. Vous savez que les maladies à voie ORL, ou plutôt de maladies respiratoires, tuent à pétuffer. Et en termes de statistiques, ce sont des maladies qui jusque-là tuent beaucoup plus que la malaria, voire même le sida. Mais comme en fait, on ne manifeste pas des signes visiblement directs de la maladie, et qu'on vit peut-être longtemps avec, on finit par mourir parce que ça entraîne d'autres maladies, alors on n'arrive pas à comprendre qu'on meurt parce qu'on a vécu dans un environnement pendant longtemps qui présentait des signes d'humidité, mais auxquels on n'a pas pu combattre, ou plutôt prendre des précautions d'éradication avant.
Voilà, donc ce sont là les conséquences. Les gens qui habitent dans une telle maison, dans une maison humide, sont vraiment exposés. Mais par rapport à la maison elle-même aussi, il y a des dangers. Le mur peut connaître, subir des conséquences.
Voilà, par rapport à la maison elle-même, en fait, les murs sont attaqués, ils sont affaiblis dans leur résistance. Et la conséquence directe, c'est-à-dire qu'un jour, vous pouvez vous retrouver avec des murs qui sont en train de tomber sur vous. Oui. Donc, même où le toit qui est en train de s'affaisser sur la maison, parce que longtemps attaqué par l'humidité, sa charpente, l'ossature, longtemps attaqué par l'humidité, et puis il commence à céder sous le fait de beaucoup de phénomènes de la nature, le fait des vents, par exemple, la pression des intempéries, tout ça. Ça peut avoir de l'incidence directe sur les murs ou plutôt la toiture de votre logement.
Mais vous avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, les constructions actuelles permettent d'éviter, de prévenir l'humidité, même si on est dans un quartier marécageux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
En fait, lorsqu'on est dans un quartier marécagé, le premier danger qui guette la maison, c'est l'humidité par la remontée capillaire. Là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut prévoir à des différents niveaux le membrane d'étanchéité. Et aussi dans la construction, veiller à ce que les mortiers soient de temps à autre associés aux produits hydrophiles. Il y a des ciments spéciaux auxquels on peut mélanger avec des ciments Portland pour pouvoir faire des mortiers qui entrent en ligne des comptes de la construction. Et cela présente davantage de lutter contre l'humidité qui attaquerait le mur plus tard.
Mais est-ce que le fait de repeindre le mur, ça résout le problème?
En fait, repeindre les murs, si on n'y a pas associé de produits hydrophiles, ça ne résout pas le problème. Donc, un des moyens de traitement de l'humidité qui a attaqué le mur, par exemple, c'est décaper et puis refaire le rafraîchissement. Et ces rafraîchissements, en le faisant, il faut associer aux nouveaux produits de peinture que vous utilisez des produits hydrophiles. Je le répète encore, parce que ça, c'est l'avantage de lutter contre l'humidité qui attaquait les façades par les ruissellements. Il faut veiller aussi aux joints des baies, c'est-à-dire les portes, les fenêtres, veiller à ce que la composition de la maison elle-même ne puisse pas permettre que les eaux des pluies attaquent régulièrement ces murs, ces façades-là. Parce que quand ça attaque, ça s'infiltre par les joints des portes et des fenêtres. C'est une des causes aussi de la pénétration des liquides dans la maison et qui plus tard engendre la présence d'humidité. Veillez aussi à ce que les toits de maison, lorsqu'on est en train de le faire, qu'on ne laisse pas des petits trous par mégarde sans pour autant les boucher lorsqu'on fait la charpente. Parce qu'à la longue, c'est un moyen, un trou par lequel l'eau pénètre dans la maison. Et la présence de l'eau dans la maison, c'est ça même, l'humidité.
L'humidité. Oui. Patrick Abeli, vous êtes à Kindu, en Manima, bonjour.
Oui, bonjour, je dis Kachama, bonjour également à l'invité.
Vous écoute.
Oui, je voudrais juste poser cette petite question. Qu'est-ce que les garants à la matière peuvent dire pour ceux qui construisent leur maison dans les marais, hein, ce qu'on appelle Chisensa, en Chiluba. Et vous verrez que ces gens-là sont en train de construire dans cette périphérie-là. Et juste, vous savez que dans cette partie, il y a toujours de l'humidité, une grande partie de l'humidité. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Peut-être s'il a déjà construit les mécanismes arrêtés pour éviter l'humidité dans cette partie.
Merci, Deschamps.
Ok, merci. Il y a un principe dans la construction, on peut construire, qui dit qu'on peut construire partout, même dans l'eau. Mais il faut être conséquent. Lorsque vous construisez dans l'eau, dans un terrain marécagé, il faut avoir des moyens conséquents. Si vous n'avez pas de moyens conséquents, ne vous hasardez pas à construire dans cette région-là. Dans le principe de répartition des terres que l'urbanisme prévoit, il y a des régions qui sont réservées aux riches pour construire parce qu'ils ont beaucoup de moyens, ils peuvent faire face à des situations comme ça. Lorsque le moyen ne vous permet pas de construire dans une zone comme celle-là et que d'une manière ou d'une autre vous avez acquis un lopin de terre que vous vous hasardez à construire, eh bien attendez-vous à des conséquences désastreuses. Donc
ça demande des moyens, ça exige des moyens.
Ça exige des moyens.
Vous voulez construire dans un tel type de terrain, il faut y mettre du moyen.
Il faut y mettre du moyen.
Oui.
Et aussi dans le plan directeur de chaque ville, lorsqu'on trouve que, en fait, c'est bien sûr qu'on peut construire partout, mais c'est lorsqu'on trouve qu'on a une population qui ne peut pas aussi accéder, qui n'a pas suffisamment de moyens, ou plutôt qui n'est pas disciplinée à un certain niveau, il y a ces zones-là qu'on appelle des zones des non-édificandes, les zones dans lesquelles on ne peut pas construire.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que l'État s'approprie ces domaines-là pour épargner à la population des dangers qui peuvent arriver. Vous remarquez, par exemple, qu'il y a des gens, comme il a dit là, qui construisent dans les bisens. Le terme, c'est-à-dire des terrains marécagés.
Mmh.
Ok, lorsque vous commencez à construire et que l'État ne fait pas pression pour vous empêcher, c'est-à-dire que vous venez avec de peu de moyens, vous faites face au problème avec des solutions précaires, donc de temps à autre, vous allez commencer à vivre dans un environnement très humide, et les conséquences, je venais de les énumérer tout à l'heure. Donc
voilà.
Vous écoutez votre vie.
Voilà. Malonga nous appelle des Bandundu-Ville. Adrienne Amouyeti se trouve à Lubumbashi. Malonga, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, Sacha.
On vous écoute.
Ok. En tout cas, tout ce que notre invité vient de dire là, je le salue d'abord.
Merci.
C'est normal. Mais les parcelles négligées par l'État, il y a une fois la population s'intéresse de ça, et l'État aussi donne la garantie. Si une fois la population arrange ça ou bien organise ça, l'État va s'intéresser, il va demander donc des pièces étatiques. Alors moi je vois ceci, quelles conséquences que l'invité peut nous donner? On peut trouver dans une maison humide. Puisque moi, je me vois très bien, si j'entre dans une maison qui a l'humidité, il y a une air vraiment qui est favorable dans mon organisme.
Mais ah bon?
Il y a une fois aussi, on pave une maison de l'humidité, on voit le ciment, le pavement s'est déchiqueté. Qu'est-ce qui fait en fait que le pavement s'opère, c'est déchiqueté, c'est quoi ça? Est-ce qu'il y a des gaz qui vient avec une pression et cherche à bouleverser vraiment le pavement? Bon, la conséquence est nocive pour la vie humaine, c'est l'humidité dans la maison.
Donc peut-être que vous nous avez pris à court, je venais de numérer certaines conséquences liées à l'humidité. Je parlais des odeurs désagréables, je parlais des maladies ORL ou de maladies liées aux voies respiratoires, asthme et puis certaines allergies qui peuvent attaquer les corps humains parce que ces corps ont vécu dans un environnement humide. Mais en fait, faites attention, il ne faudra pas confondre la fraîcheur à l'humidité. C'est comme l'impression que vous confondez la fraîcheur à l'humidité. La fraîcheur, lorsque la maison est bien aérée, c'est frais. Alors là, ce n'est pas l'humidité. L'humidité marche avec des signes visibles, comme vous venez de dire là, de pavement qui se décape. Donc ça, c'est la pression de l'humidité.
Allez-y, oui. Allez-y.
Qui fait en sorte que non,
oui.
L'eau, c'est un élément corrosif très dangereux.
Mm-hmm.
Même si elle vient à petits pas, mais elle finira toujours par causer des désastres dans un logement.
Mm-hmm.
Donc lorsque vous avez déjà ces signes visibles là, ce sont le début des désastres. Donc ces désastres ne sont pas agréables, ne sont pas compatibles à une vie humaine dans un même environnement.
Voilà. Adrienne Amouyeti, vous êtes à Lubumbashi, Mumpoy également. Adrienne, bonjour.
Bonjour, monsieur Kersama. Bonjour, l'architecte de Chongandou.
Bonjour.
Moi aussi, je venais à peine de vous prendre diffusion en cours et ma question a été déjà posée, si je peux dire, parce que je voulais aussi savoir les conséquences de l'humidité dans une maison.
Mmh.
Et j'aimerais aussi savoir si cela peut causer des maladies et savoir aussi quels sont les signes des maladies causées par l'humidité. C'est ça. Merci, Kachama.
Merci, Adrienne. Bonne journée. Mumpoy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à l'invité.
Et on vous écoute.
Oui, ma préoccupation était celle de savoir, juste après qu'ils sont construits dans un terrain marécagé, la fondation, la fixation du mur peut être élevée de combien de centimètres par rapport à la surface de la terre. Et je devais maintenant savoir l'humidité, à quel niveau donc on peut d'abord partir de l'humidité. Et la constance des maladies, par exemple, là où nous sommes, nous voyons que c'est vraiment dans un terrain très, très, très humide. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, pour lutter contre ces quelles peut être précautions qu'on peut prendre à l'âge? Je vais encore souligner un peu une construction anarchique qui peut aussi favoriser l'humidité dans l'air. De l'eau qui ne semble pas être bien gérée, ça se marchable et au fur et à mesure que ça se stagne, ça provoque aussi plus de l'humidité des maisons dans un endroit où on n'a pas bien construit.
Alors, Mon Poy, quelle est la situation dans les quartiers où vous vivez vous vivez dans quel quartier en Lubumbashi?
Présentement, je vis ici à Kungunga. On appelle communément cet endroit, on appelle Kisensi.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup l'humidité. Vous avez remarqué que l'humidité est très, très est fréquente là-bas?
C'est plus élevé. Juste quand il pleut, on ne saurait même pas marcher. Pour se déplacer d'une avenue à une autre, ça demande plus d'efforts. Et des maisons, c'est à quel séjour dont nous avons vu la pluie. Au mois de janvier, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'écroulements. Et la précaution aussi pour prendre à ceux qui construisent avec des briques à dos, c'est encore très, très, très difficile pour nous.
Bien, merci de savoir répondre tout à l'heure. Marcel Zuma, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour Jody et bonjour à l'invité.
Bonjour Marcel, on vous écoute.
Ok, merci. Je crois ma question, l'invité l'a presque déjà abordée, mais d'une autre manière. Je voudrais peut-être l'aider. Et quelle est la différence que l'invité peut dresser entre l'humidité et la fraîcheur? Parce que tout à l'heure, il a invoqué les causes de l'humidité. Quelles seront les causes manifestes de fraîcheur pour que nous savons dans certaines maisons construites même sur des endroits marécagés? Mais si vous y entrez, vous sentez vraiment que les fraîcheurs sont permanentes. Et maintenant, en termes de température, donc, l'invité peut situer l'humidité à quel degré de température, à quel degré Celsius, de même aussi les fraîcheurs. Donc, il peut maintenant situer ces deux éléments à quel degré Celsius. Donc, en quoi l'humidité est-elle différente des fraîcheurs? Voilà un peu ma préoccupation, M. Jury.
Merci, Marcel. Robert Bondouki est à Bukavu. Bonjour. Robert, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Ok, je suis à Bukavu où toute la ville est sur une région à forte pente. Hein.
Oui.
Presque la moitié de toutes les maisons sont construites sur une pente.
Oui.
Alors, il faut d'abord creuser et construire un mur de soutènement avant toute construction de toute la maison. Souvent, le mur de soutènement constitue le premier mur de la maison. Comment peut-on faire alors pour se protéger contre
l'humidité?
L'humidité qui sort de la pente de la montagne.
Merci hein, Robert. Daniel Kasongo est également à Bukavu. Bonjour.
Bonjour Monsieur Joli Kassama.
On vous écoute Daniel.
Bonjour à notre invité. Et je suis en train de me demander quelle réponse l'invité peut me donner si sur la fondation nous avons mis le sachet comme il a dit, mais l'humidité ne s'arrête pas. Quelle autre solution peut-on préconiser? Ça c'est un. Deux. Et je voudrais revenir sur un autre auditeur a posé comme question, c'est de savoir quelle maladie peut-on contracter lorsque on vit dans une maison où il y a de l'humidité. J'ai terminé, monsieur Joly.
Merci à Daniel Kassongo. Shadrach Nabina nous appelle d'Mbandaka. Bonjour.
Bonjour Joly, bonjour aussi à notre invité.
On vous écoute, Shadrach.
Merci. J'ai une question parce que nous sommes dans la province de l'Équateur, là où il y a des riverains, entre autres le Libinda, le Lokele et le Livonda.
Mm-hmm.
Et quand vous arrivez dans les camps ou bien là où il y a l'habitation de ces gens, vous voyez qu'ils sont nés, grandis dans l'humidité. Mais après tout, quand ils sont là, il n'y a pas de maladie. Des fois, ils sont en bonne santé. Alors, l'invité peut nous expliquer quel phénomène n'existe pas. Parce qu'ils sont nés dans l'humidité, grandis dans l'humidité, et il n'y a pas de conséquences majeures sur leur santé. Voilà.
Merci, Shadrach Nabina Dembandaka. Alors, Deschaux, vous avez beaucoup de questions. Vous avez la parole pour répondre aux auditeurs.
Ok, beaucoup de questions. Je vais essayer de le ramasser parce que la plupart, ce sont des questions qui reviennent,
oui,
qui se recoupent. Pour prendre l'intervenant de tout à l'heure qui a parlé de mur de soutènement qui est en même temps le mur de la maison.
Là, il faut
dire à Bukavu, il faut dire que là on a mal procédé parce que lorsque le mur de soutènement constitue votre mur de séparation, des limites, il est conseillé de ne pas lier la maison, donc le mur de la maison au mur de séparation des limites. Pour de simples raisons qu'il faut qu'on ait le temps de sillonner sa maison, tourner tout autour de sa maison pour voir les dangers viennent d'où et qu'est-ce qui guette ma maison comme attaque, tout ça. Alors vous comprenez que là, vous ne maîtrisez pas parfaitement les forces des pressions sur le mur. Parce qu'en même temps, il est mur de soutènement et en même temps, il est mur de votre maison. Donc là, déjà au départ, il y a un problème. Il faut voir les professionnels sur place pour qu'ils vous aident à pallier à ces dangers-là.
Mm-hmm.
Et notre intervenant a cherché à savoir à quel moment on peut parler de fraîcheur, à quel moment on peut parler
d'humidité
en termes de température.
Oui.
Ok. Faites un effort pour aérer votre maison à plus ou moins 20 degrés Celsius. Ça, c'est la température normale qui est exigée. Mais lorsque vous êtes déjà en deçà de 20 degrés Celsius, là, ce n'est plus la fraîcheur, c'est l'humidité, tout simplement. Et les signes sont manifestes et visibles. Je les ai évoqués tout à l'heure au début de l'émission.
Mm-hmm.
La fraîcheur n'apporte pas des signes visibles. La fraîcheur, c'est ce qui est recherché parce que lorsqu'il fait très chaud, vous avez besoin de la fraîcheur. C'est pour cela qu'on recourt même à la ventilation mécanique aussi, avec les splits et certains monoblocs dans les logements. Donc, en termes de température, à moins de 20 degrés Celsius, vous êtes déjà dans un environnement humide. Alors là, il faut faire très attention.
Alors, Daniel nous a dit qu'ils ont mis des sachets, comme vous avez dit tout à l'heure, pour créer l'étanchéité, mais il y a toujours des remontées capillaires. L'eau remonte dans la maison. Quelle autre solution pouvez-vous prescrire?
Bon, lorsqu'on a mis des sachets que le problème n'est pas résolu, plutôt plus tard on remarque la présence d'humidité, soit ces sachets-là, c'est-à-dire cette membrane-là n'a pas été bien placée, elle a laissé des fuites, et plus tard, comme je l'ai dit toujours, l'eau c'est un élément corrosif très dangereux, il finit toujours par s'effrayer en chemin et pouvoir attaquer votre maison. Et si ce n'est pas le cas, les solutions, là ça devient des solutions trop coûteuses, il faut des produits qu'on les cherche à imprégner de manière profonde et de manière répandue pour atteindre toutes les couches. Et c'est des moyens très honorés que même ici chez nous, on n'y recourt pas généralement.
Voilà. Ouais. Et il veut savoir les maladies, si vous pouvez revenir rapidement sur les maladies qui peuvent
les maladies,
arriver.
Oui, ce sont des maladies
respiratoires.
Respiratoires, je fais allusion aux bronchites, je fais allusion aux maladies, aux asthmes. Si vous remarquez que non, vous avez des enfants plutôt, vous vivez avec des gens qui ont des bronchites, des asthmes, donc c'est lié aussi beaucoup plus à leur présence dans un logement humide. Donc beaucoup plus ce sont des maladies de ce genre ou bien d'autres allergies. Liées à l'humidité, je ne suis pas médecin professionnel, mais généralement ce sont ce genre de maladies qui accompagnent le fait de vivre dans un environnement humide.
Shadrach Dembandaka nous dit que les Libinda et autres peuples dans la province de l'Équateur vivent dans l'humidité toute leur vie et il n'a jamais noté des maladies, une quelconque maladie.
Ok, Shadrach, peut-être il fait une confusion que je tiens à relever toujours entre la fraîcheur ou plutôt les climats et l'humidité. Lorsqu'on vit par exemple, les gens qui vivent en hiver, on n'allait pas me dire qu'ils vivent dans l'humidité. Il fait frais, il fait froid pendant une certaine période, mais cela ne suppose pas qu'ils vivent dans l'humidité. C'est un climat qui est saisonnier, qui passe. Donc les gens qui vivent dans ces coins de la République ne vivent pas dans l'humidité, mais vivent dans un climat particulièrement frais.
Mmh.
Et cela n'apporte pas forcément de maladie. Donc c'est ça le problème que chaque femme doit pouvoir comprendre.
Oui. Alors pour terminer des choses, les solutions, pour une, si quelqu'un habite dans une maison humide, qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, en fait, à chaque catégorie d'humidité, il y a une solution appropriée.
Mm-hmm.
Si c'est une humidité liée à l'infiltration d'eau des pluies par le toit ou plutôt les façades, il faut revoir la toiture.
Oui.
Il faut bien inspecter, prospecter la toiture pour voir s'il n'y a pas des trous. Et dans les cas où il y en a, il faut les colmater.
Mm-hmm.
Si ce sont des façades perpétuellement attaquées par les eaux des pluies, il faut prévoir soit des débordements de toiture, dépassements de toiture, j'allais dire, afin d'éviter à ce que les murs soient tout le temps sollicités par les pluies.
Mm-hmm.
Ce sont des humidités liées, par exemple, aux fuites dans des salles de bain, dans la tuyauterie d'adduction d'évacuation, il faut les remplacer. Donc ça, c'est l'usure, tout simplement. Donc il faut renouveler parce que la maison, c'est comme un être humain. Il vit, il vieillit et puis il meurt.
Donc il faut chercher la cause de l'humidité et traiter la cause.
Il faut chercher la cause de l'humidité et traiter cette cause-là par rapport... donc il faut chercher l'origine et la traiter par rapport aux moyens appropriés.
Et s'il y a des remontées capillaires, il y a l'eau qui remonte, alors pour ça, il
bon,
faut quelque
chose. Ça, c'est la plus dangereuse, donc je disais que... Et ça fait recours à des moyens très coûteux. Donc aussi...
Ou il faut carrément détruire la maison.
Bon, en fait, péniblement, j'ai considéré ça.
Ouais.
Que c'est pas facile de construire une maison pour laquelle on a investi beaucoup de moyens, mais si c'est permanent, donc c'était mal parti. Et ici, c'est l'occasion de recommander aux constructeurs éventuels de pouvoir, temps à autre, consulter les professionnels du bâtiment.
Des choses, peut-être qu'il y a des gens qui sont qui vivent dans l'humidité, qui voudraient bien vous contacter après l'émission. Ils peuvent vous appeler à quel numéro?
049-496-01. 01, je reprends,
049-49-601.
Oui.
Merci des shows, Ngandou, architecte, et bonne journée.
Merci beaucoup, vous autres, Angélie.
Shine bright like a diamond.